Vous écoutez RFI, il est 19h ici à Paris, 17h en temps universel.
RFI Soir, Romain Ozoui.
Lundi 12 mai, bonsoir à tous, allez c'est reparti pour une semaine d'actu, c'est la session soirée de l'info sur RFI. Soyez les bienvenus, voici les temps forts des 3 heures à venir. Dans 10 minutes, Action d'Europe qui sera en Estonie pour évoquer eh bien, le plus grand exercice de cyberdéfense entre alliés. À la une également, le Betaram suisse, un établissement privé catholique qui est lui aussi touché par un scandale de violence sexuelle. Ça se passe dans le canton du Valais. Juste après, ce sera le débat du jour qui parlera culture et Donald Trump, précisément cinéma. À la veille de l'ouverture du Festival de Cannes et alors que le président américain souhaite imposer les droits de douane de 100% sur les films produits hors des États-Unis. La culture est-elle menacée par la guerre commerciale? C'est la question que nous poserons. Quelles conséquences si une telle mesure est appliquée? Quels symboles sont attaqués? Réponse à suivre dans 30 minutes. Dans une heure, le grand journal du soir et le dossier qui sera consacré à la dissolution du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan. 18h30, TU Afrique Soir, la première édition de ce lundi. 19h10, temps universel, le décryptage au Proche-Orient ce soir. Avec cette question, est-ce que la Cisjordanie est en voie d'annexion suite aux opérations israéliennes qui se poursuivent? Marion Kazanov et ses invités pour répondre à cette question. Et puis le grand reportage, ce sera 19h40, temps universel. Grand reportage ce soir à Kampala, la capitale ougandaise, dans un centre de déradicalisation pour anciens combattants de l'État islamique en Afrique centrale. Voilà le programme. Pour l'heure, il est 17h02 en temps universel et c'est le journal d'Adrien Delgrange. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et à la une ce soir, la question de la fin de vie qui fait son retour à l'Assemblée nationale française.
Oui, les débats sur ces moments qui précèdent la mort ont repris aujourd'hui. Alors pour rappel, deux textes séparés sont à l'étude. Le premier, relativement consensuel, doit garantir un meilleur accès aux soins palliatifs. Le deuxième, qui fait bien davantage débat, doit ouvrir un droit à l'aide à mourir. Deux semaines de débats intenses sont annoncées. Nous retrouvons en direct de l'Assemblée nationale française Victorien Villaume. Bonsoir.
Bonsoir Adrien, bonsoir tout le monde.
Alors avant que les députés étudient chaque article de ce texte délicat, il y a d'abord eu aujourd'hui ce qu'on appelle la discussion générale commune.
Exactement, plus de 20 députés en tout vont prendre la parole pour rappeler dans les grandes lignes leur position. Ça a commencé il y a un peu plus de 3 heures et il y a notamment le rapporteur général Olivier Falorni qui a eu ces mots. Il n'y a rien de plus beau que la vie, mais que veut dire vivre quand vivre n'est plus que souffrir sans espoir de guérison? Au gouvernement, c'est la ministre Catherine Vautrin qui défend le texte dans l'hémicycle. Elle explique de son côté qu'il ne faut pas refuser le débat sur l'aide à mourir car notre droit ne laisse certains malades souffrir sans réponse. La ministre affirme également qu'elle veillera à ce que le texte reste équilibré avec des garde-fous importants. Sauf que du côté des opposants à l'aide à mourir, eh bien, d'ailleurs surtout la droite et l'extrême droite, on craint des dérives et on dénonce une loi qui va différencier arbitrairement les vies. J'ajoute, Adrien, car c'est assez rare pour être souligné, que pour ce texte qui touche un sujet très intime, les groupes politiques ont décidé de ne pas donner de consignes de vote à leurs députés. Et on a donc pu entendre pendant la discussion générale deux parlementaires du même parti, le Modem en l'occurrence, défendre des positions tout à fait opposées sur l'aide à mourir.
Victorien Villaume en direct de l'Assemblée nationale française. L'actualité internationale marquée aussi par la libération il y a quelques instants d'Eden Alexander. L'otage israélo-américain est de retour sur le sol israélien, vient de confirmer l'armée israélienne. Il était retenu par le Hamas depuis le 7 octobre 2023. De son côté, la Croix-Rouge affirme dans la journée avoir facilité le transfert en toute sécurité de ce soldat âgé de 21 ans. Nous sommes soulagés qu'une famille supplémentaire ait pu être réunie aujourd'hui, mais le cauchemar continue pour les personnes encore retenues en otage, mais aussi leurs proches et des centaines de milliers de civils dans toute la bande de Gaza, précise la présidente du CICR. Détails et précisions sur cette libération dans notre prochaine édition où nous serons en direct de Jérusalem. L'actualité aussi, c'est ce désarmement et la dissolution du PKK. Le Parti des travailleurs du Kurdistan ont décidé donc de déposer les armes après près d'un demi-siècle de guerre contre la Turquie. Cette décision prise lors d'un congrès qui s'est tenu ce week-end dans le nord de l'Irak fait suite à un appel en ce sens du fondateur emprisonné du PKK, Abdullah Öcalan, le 27 février dernier. Le PKK est considéré comme un groupe terroriste par la Turquie et ses partenaires occidentaux. La fin de la lutte armée, si elle est effective, alimente l'espoir d'une résolution pacifique de la question kurde en Turquie. Pour Dorothée Schmidt, responsable du programme Turquie pour l'IFRI, les contours de cet accord trouvé avec la Turquie pour que la dissolution soit effective restent encore flous.
Pour le moment, on se concentre sur toute la partie technique de la fin de ce mouvement armé, du désarmement des combattants, de l'éventuel rapatriement des combattants turcs qui sont en Irak ou en Syrie, de l'expulsion des combattants du PKK turc éventuellement dans d'autres pays d'où ils seraient originaires. Et vous savez qu'il y a eu un précédent de processus de paix en 2013 avec le PKK qui n'avait pas abouti, qui avait été rompu en 2015. Et ce qui était très frappant, c'est qu'on avait déjà en réalité l'impression qu'il n'y avait pas une feuille de route très claire, pas des détails très clairs. Et j'ai le sentiment que l'AKP, que Tayyip Erdogan, joue avec les équilibres politiques. Je crois que le but, c'est surtout aujourd'hui de récupérer aujourd'hui de l'électorat kurde pour renforcer une base électorale de l'AKP qui est en train de se ramollir un petit peu, alors que le reste de l'opposition est très mobilisé, comme on l'a suivi ces dernières semaines.
Cette dissolution du PKK est saluée notamment par le chef de l'ONU, Antonio Guterres, qui salue ce soir une étape importante vers la paix. Une pause de 90 jours dans la guerre commerciale que s'infligent États-Unis et Chine. Une trêve tarifaire de 3 mois entre les deux pays. Les États-Unis réduiront leurs droits de douane sur les importations chinoises de 145 à 30%, tandis que la Chine réduira les siens de 125 à 10%. Pour Thomas Jbenin, économiste au CEPI, Donald Trump n'avait pas d'autre choix que d'abaisser ses droits de douane sous la pression notamment de l'industrie et des grands patrons américains.
C'est un accord important, même si pour l'instant il est temporaire, parce que les États-Unis et la Chine sont les deux grandes puissances mondiales, et avec les droits de douane qui avaient été imposés par Donald Trump et les représailles chinoises, il y avait de facto un quasi-embargo des deux côtés. Donc ça désorganisait complètement les chaînes de production mondiales, et c'était pas tenable à court et moyen terme. Et c'est ce qui explique qu'il y a eu cet accord qui est arrivé relativement rapidement, plus la crainte de l'inflation, la crainte d'une désorganisation de toute la production mondiale. Donc je pense que c'est cette pression des grands industriels et des grands patrons américains qui sont remontés au créneau face à Donald Trump, notamment le PDG de Walmart, qui disait qu'à cause des tarifs, il risquait d'y avoir des pénuries dans les rayons des supermarchés américains, qui a poussé à Donald Trump à trouver relativement rapidement une solution.
Dans l'actualité également, 3 pays à l'ordre du jour, ou plutôt à l'agenda de Donald Trump, qui vient de s'envoler notamment pour l'Arabie Saoudite. Cette visite au Moyen-Orient mènera le président américain notamment dans d'autres pays que sont le Qatar. Le Qatar qui, par ailleurs, hier a proposé d'offrir un nouvel avion gratuitement au président américain. Donald Trump l'a lui-même confirmé sur son réseau social. Problème, ce Boeing 747 d'une valeur estimée à 400 millions de dollars serait offert par la famille royale du Qatar pour usage officiel du président des États-Unis, un président XXL qui fait enfler la polémique aux États-Unis. Précision, Juliette Chénion.
Ce serait l'un des plus gros cadeaux jamais offerts au gouvernement américain. La chaîne ABC parle d'un palace dans le ciel, référence à l'aménagement luxueux de cet avion qatari. Un avion gratuit qui pose la question du conflit d'intérêts, car la constitution américaine interdit au président d'accepter les cadeaux d'une famille royale étrangère. Pour Donald Trump et son administration, l'opération serait tout de même légale, l'avion étant offert, selon eux, à l'armée de l'air et non au président, le tout sans contrepartie. La Maison-Blanche dit vouloir utiliser cet avion temporairement temporairement comme Air Force One, en attendant la livraison très en retard de nouveaux jets officiels. Donald Trump se plaint des deux actuels Boeing, vieux de 25 ans et trop chers à entretenir. Les démocrates, eux, s'indignent, parlent de corruption à la vue de tous. D'après la presse américaine, Donald Trump pourrait même garder l'avion après la fin de son mandat en le transférant à sa fondation. Pour la chaîne ABC, ce cadeau sera officialisé cette semaine lors de la visite de Donald Trump prévue à Doha, une information démentie par le Qatar qui assure qu'aucune décision n'a été prise pour le moment.
Ainsi se referme ce journal international.